Merci, c'est gentil, Julien. On va dans le même sens, hein. On essaye l'école de la vie. Donc c'est votre sujet et c'est votre message. Et moi, ça a été mon école effectivement parce que j'ai été la première des cancres et pas du tout adaptée au système scolaire classique. Et toutes les matières que vous proposez d'intégrer dans le système scolaire, c'est tout ce qui me manquait et c'est tout ce qui
Ouais.
me raccrochait en fait. Donc je vais vous
D'accord.
laisser la parole et moi, je connais votre histoire, hein, je vous suis depuis un petit moment et je sais comment tout ça a démarré. J'avais juste une question. Est-ce que le tour du monde que vous avez fait, c'était vraiment en vélo?
Non, ça s'est pas fait à vélo. Non, non. En fait, la partie vélo, c'est 900 km dans le
D'accord.
projet du film. Et c'était un projet où l'idée, c'était d'aller interviewer la population, en fait, sur le parcours à vélo. Et on a suivi la Vélodyssée. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une piste cyclable qui part d'Angleterre et qui va jusqu'en Espagne. Et là, nous, en l'occurrence, on était parti de Nantes et on a été jusqu'à Biarritz, enfin, un peu plus loin de Biarritz, on a été jusqu'à Bidart. Et donc, j'avais demandé à des internautes de venir avec moi. Et donc, chacun avait un téléphone ou une caméra. Et on avait un objectif, c'était d'interviewer, en fait, des personnes, tous les jours. Et donc ça, c'est la partie vélo, en fait, dans le documentaire. Hein.
D'accord. Alors, ce documentaire, je l'ai vu. En plus, vous l'avez mis gracieusement à disposition pendant cette période de confinement, ce qui fait partie des gestes de solidarité que j'apprécie et que j'aime mettre en valeur parce qu'on est suffisamment assez terrassé par les mauvaises nouvelles et par toujours la nourriture, on va dire, au niveau de l'information. Et c'est juste génial de participer à ce partage. Et moi, je sais aussi, pareil, d'où est venue l'idée, mais je vous laisse raconter, Julien, comment vous est venue l'idée de chercher qu'est-ce que c'était le bonheur pour les gens?
En réalité, j'étais au Canada, j'étais à Montréal. Donc il faut remonter un petit peu en arrière. En fait, j'ai créé une agence de communication il y a 17 ans en arrière, qui est une agence de communication dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Et donc, avant que les films sortent, j'organisais des rencontres interthérapeutes dans 17 villes en France et je faisais ça aussi en Suisse, en Belgique. Et j'avais envie de le faire pour la première fois à Montréal. Donc, du coup, on a organisé une rencontre sur place et j'avais décidé de rester un mois dans le pays et donc de me balader en essayant de créer des ponts parce qu'on estime en France que le Canada a 15 ans d'avance sur nous en termes de développement personnel, de médecine alternative et tout ça. Et donc, je m'étais dit qu'il y avait vraiment des ponts à créer. Et moi, quand je me déplace, j'aime bien dormir chez les gens. Donc là, en l'occurrence, c'était au mois de décembre. C'était une journée où il faisait moins 40 degrés, c'était tempête de neige, donc du coup, on ne pouvait pas sortir. Et donc, on a décidé avec mon hôte de discuter, de refaire un peu le monde, parce qu'on avait un peu que ça à faire. C'était très sympa, on a passé un bon moment, et à un moment donné, on s'est retrouvé dans la cuisine en train de boire un thé. Et le bonheur est venu comme ça sur notre discussion, et j'avais mon téléphone qui était posé sur la table. Et je ne sais plus pourquoi, en fait, je lui ai dit, est-ce que ça ne te dérange pas si je te filme pendant que tu me donnes ta définition du bonheur? Et c'est en regardant cette définition le soir, en fait, dans mon lit, que j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, waouh, mais ça m'a semblé très puissant, en fait, dans l'idée. Et comme je le dis dans le film, je suis mon intuition depuis que je suis tout petit, et moi, mon canal intuitif, c'est quand j'ai des frissons, en fait, dans le corps. Et là, en l'occurrence, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai des frissons partout, et je me suis dit que c'était bon signe. Donc du coup, j'ai interviewé plein de Canadiens pendant mon passage au Canada et ça m'a donné envie, en fait, par la suite, de continuer à interviewer des gens parce que il se passe quelque chose, en fait. Il faudrait vraiment inviter les gens à le faire, à prendre le temps. Là, c'est pas possible pendant cette période de confinement, mais quand on aura l'occasion de ressortir dehors, prenez votre téléphone portable ou n'importe quoi, arrêtez quelqu'un dans la rue, regardez-le dans les yeux et posez-lui cette question de c'est quoi le bonheur pour vous. En fait, vous allez voir, il y a vraiment quelque chose qui se passe, une interaction qui est de l'ordre un peu de l'intime. Et donc, moi, ça m'a animé, ça m'a bien plu. Après, j'ai fait le pont avec mes activités personnelles et professionnelles. Et donc, comme je me déplace beaucoup, je me suis dit, tiens, je vais profiter de mes déplacements pour continuer à interviewer des gens que je croise comme ça sur mon parcours. On va alimenter notre chaîne YouTube comme ça. Et puis, on va publier aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, ça a commencé à générer comme un buzz. Des gens ont commencé à nous envoyer des vidéos. Moi, ça m'a donné encore plus envie de continuer à interviewer des gens parce que je voyais que ça apportait en fait beaucoup de bien. Des gens me laissaient des commentaires en me disant waouh, c'est super, en écoutant telle et telle interview, moi ça a généré un déclic ou ça a changé ma vie. Et j'ai continué pendant 4 ans. Et donc c'est au bout de 4 ans où je me suis dit j'ai 300 heures de rush maintenant, peut-être que ça pourrait être une bonne idée de réaliser un film.
Et j'ai particulièrement aimé le témoignage d'une dame, j'ai oublié son nom, qui a perdu son mari, hein, qui devance
Ah oui,
pas.
Marie-Lise Labonté.
Ah, c'était
Marie-Lise
Marie-Lise
Labonté.
Labonté?
Oui.
D'accord, j'ai pas reconnu. Et pourtant, je connaissais le
Ah oui, ah oui, c'est elle.
livre. Hein. J'ai pas reconnu, mais c'est juste magnifique, c'est porteur d'espoir et c'est vraiment voir. Surtout en cette période, voir le beau côté des choses. Parce que quand on vit des choses extrêmement douloureuses, on focalise, on a tendance à focaliser dessus et être complètement inattentif à ce qu'il y a de beau qui continue autour. Et est-ce que vous avez remarqué, quand vous posez cette question, vous aussi, que les gens ont beaucoup plus de facilité à dire ce qu'ils n'aiment pas plutôt que ce qu'ils aiment? Et en l'occurrence, quand vous posez la question pour vous, c'est quoi le bonheur? Ils savent plus facilement ce qui ne l'est pas plutôt que ce qui l'est. Est-ce que vous avez constaté ça aussi?
Non, pas forcément. Je reviens un petit peu en arrière sur ce que vous disiez parce que je vous rejoins et c'est un des messages aussi que j'évoque en fait dans le film, c'est le côté un peu anxiogène et médiatique que peut générer en fait l'ensemble des médias. Et c'est important, je pense, de le souligner en fait parce qu'on a le choix quand même de choisir l'information. On n'est pas obligé de laisser sa télé en continu dans son salon et on peut aller choisir maintenant l'information. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que 70% des médias appartiennent globalement au gouvernement et à l'État, et donc du coup, on nous véhicule des informations qui ne sont pas du tout le reflet de la réalité de ce qui se passe globalement dans le monde. C'est une partie de ce qui se passe, c'est une partie de la réalité, mais c'est une toute petite partie réellement de ce qui se passe. Donc, peut-être qu'un bon exemple qu'on pourrait donner, c'est imaginons demain, bah, vous décidez de créer une chaîne de télévision, bah, j'imagine que vous avez plutôt véhiculé des informations positives plutôt que des informations négatives qui sont très tournées autour de meurtres, de guerres, de gens qui décèdent, etc., etc. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment important de le dire, de faire en sorte que les gens sachent que c'est peut-être mieux pour eux, pour l'organisme, pour leur santé, d'aller choisir de l'information plutôt que de la subir. Et là, on a vraiment plein d'outils maintenant à notre disposition. Et pour revenir à ce que vous disiez, moi, j'ai pas le sentiment, non, parmi toutes les personnes que j'ai interviewées, généralement, elles me disent plutôt, alors, ce qui m'a d'abord vraiment interloqué et très rapidement, c'est qu'il y avait 3 personnes sur 4 qui sont incapables de me donner une définition. Et ça, pour moi, c'est assez colossal. J'ai remarqué d'ailleurs que dans le film, je ne donne pas une bonne information. En fait, je dis 1 personne sur 4 est incapable de donner une définition. En réalité, c'est 3 personnes sur 4. Et c'est ce qui m'a vraiment animé aussi à continuer à interviewer des gens, parce que je me dis, c'est quand même pas normal qu'il y ait autant de personnes qui soient incapables de donner une définition spontanément. Parce que l'idée de ce que j'ai fait, c'était d'aller voir les gens de manière très spontanée, donc il n'est pas le temps forcément de réfléchir. Et c'est ce qui m'a poussé en fait à continuer à interviewer les gens parce que je me disais il faut vraiment amener la population à réfléchir à cette question, à ce qui se pose au moins 5 minutes et qui se disent mais c'est quoi le bonheur pour moi? Est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je suis bien dans ma tête? Est-ce que je suis OK avec toutes ces décisions que j'ai pu prendre? Est-ce que je ne suis pas trop conditionné par la société? Enfin, plein de questions philosophiques au final qu'on ne prend pas le temps de se poser parce qu'on est pris dans un rythme qui est assez frénétique, j'ai envie de dire. Et donc, non, en fait, les gens vont plutôt donner leur définition dans un premier temps. Et après coup, ben, généralement, on discute beaucoup avant, pendant et après. Donc c'était très intéressant avant et après d'avoir un échange avec ces personnes et de voir un peu, de manière peut-être un peu plus longue, ce que eux pensaient du bonheur, quoi. Quand on est sur le... Généralement, la définition, elle est très courte. Ça peut durer 30 secondes maximum, quoi.
C'est ça. Et de ce film est venu votre engagement. Donc je le rappelle, j'ai juste dit votre prénom, mais c'est donc Julien Perron. Et le film, c'est quoi le bonheur pour vous? Et vous êtes engagé à le faire diffuser dans pas mal d'écoles. Et c'est génial parce que je trouve que l'école est le premier transmetteur d'un conditionnement au bonheur, mais matériel celui-ci, avec toutes ces notions de réussite scolaire, réussite professionnelle, et des personnes, des adultes qui se construisent en arrivant au bout du chemin en étant frustrés, en étant minés, bridés même, parce qu'ils se sont laissés, ils ont cru à cette vérité que le bonheur, c'était de réussir sa vie, réussir dans la vie, au fait, et pas réussir sa vie. Est-ce que vous avez bon espoir de faire bouger les choses par les retours que vous avez eus dans le milieu scolaire?
Oui, très. Oui, alors déjà, ce qu'il faut se rappeler, parce que je vois parmi les commentaires des fois qu'on me laisse ou des messages que je reçois, des personnes qui me disent, mais est-ce qu'il va passer au cinéma plus tard? Et en fait, le film, il est sorti en 2017. Donc,
Oui.
ça fait déjà plus de 3 ans qu'il est sorti. Il y a déjà 1 million de spectateurs qui ont vu le film. Et il y a déjà plus de 100 000 citoyens qui diffusent le film un peu partout en France et dans plein de pays. Et donc, pour revenir à votre question, alors attendez, j'ai perdu le fil de la question. C'était.
C'était, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez bon espoir de faire
Ah
bouger
oui.
les choses dans l'éducation
Oui.
nationale ou voilà.
Oui, alors voilà pourquoi je vous le dis, c'est qu'en fait, parmi ces 100 000 citoyens qui diffusent le film, il y a plus de 6 000 écoles qui ont déjà acquis le film, que ce soit en version numérique ou en DVD. Et donc, ce qu'ils font, j'imagine, hein, c'est qu'ils se font tourner aussi peut-être entre collègues. Donc ça, c'est la partie positive. Ensuite, le film, il nous échappe parce que c'était un peu l'objectif pour les deux films que j'ai réalisés. Donc, C'est quoi le bonheur pour vous? Et la suite, L'école de la vie, une génération pour tout changer. J'ai enlevé les droits en fait d'auteur et les droits SACEM sur les films pour permettre justement aux citoyens d'organiser des projections et que ce soit simple en fait, qu'il n'y ait pas de frais à payer derrière. Donc, il y a sûrement beaucoup plus d'écoles qui ont le film ou qui ont diffusé le film ou qui ont créé des ateliers bonheur autour du film, mais je suis pas au courant de tout. Là où je suis au courant, alors il y a deux choses qui sont importantes qui me viennent à l'esprit. Il y a 3 mois ou 4 mois en arrière, il y a le cabinet du Premier ministre qui a commandé les deux films que j'ai réalisés. Donc ça, je trouve que
Ah!
c'est très très positif. Ouais. Il y a maintenant plus d'un an et demi en arrière, voire 2 ans, la directrice, donc l'ancienne directrice de la DGESCO, qui est le département innovation et éducation au sein du ministère de l'Éducation nationale, qui est venue une fois au festival pour l'école de la vie qu'on organise à Montpellier maintenant depuis 5 ans. Si on fait une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, donc on organise le festival pour l'école de la vie depuis 5 ans à Montpellier. C'est un festival qui est lié à l'éducation. Donc il y a 220 exposants, il y a 35 conférences, des ateliers, des animations, des débats, des concerts. Tout tourne autour de l'éducation et il y a entre 10 et 15 000 personnes qui viennent de la France entière tous les ans à Montpellier. Et donc, elle est venue, elle m'a appelé, je crois, 6 mois après pour me dire qu'elle était venue. Et je lui ai dit, c'est dommage, on aurait pu se rencontrer sur place et discuter ensemble. Ceci dit, on a discuté pendant une petite heure et ce qui était très intéressant, donc de l'époque, c'est qu'elle a adoré le festival. Elle-même est en train de faire changer les choses au sein du ministère, mais depuis 20 ans. Donc, elle me dit, c'est vraiment au compte-gouttes. Elle m'a fait comprendre qu'elle n'était pas la seule à essayer de faire changer les choses au sein du ministère, donc de façon positive, hein, évidemment. Et de notre conversation, il y a deux choses qui étaient ressorties. La première, c'est que selon elle, elle était très contente parce qu'il y avait une barrière qui venait de sauter, et donc elle avait plus de champ libre en fait pour essayer de faire passer des nouveautés, donc tous ces outils qu'on trouve à l'extérieur, donc tous ces outils qu'on appelle des outils alternatifs ou nouveaux, tous ces professionnels au final qui proposent plein de choses pour accompagner les enseignants, les parents et les enfants, et là où on a du mal à les faire intégrer au sein de l'éducation nationale. Et donc elle voulait créer un département avec des personnes comme moi, comme Frédéric Lenoir, comme Isabelle Filioza, comme Catherine Guéguen et plein d'autres, pour essayer de créer des outils justement et faire force de proposition et pour essayer de les tester au sein des différentes écoles qu'on a en France. Et donc moi je lui avais dit, comme je suis pas très politique, je lui avais dit, écoutez, si vous réussissez à organiser une projection du film L'école de la vie au sein du ministère, je viens avec grand plaisir pour rencontrer tout le monde et pour échanger et pourquoi pas voir aller plus loin. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Mais c'est quand même, je trouve, une très bonne nouvelle. Et puis, pour aller dans cette continuité, il y a 2 ans en arrière, non, il y a 3 ans maintenant en arrière, il y a la Commission européenne, donc à Bruxelles, qui a organisé une projection du film C'est quoi le bonheur pour vous, dans lequel j'ai été convié. Et donc, du coup, je me suis retrouvé face à une quarantaine de bonhommes qui tirent les manettes, en fait, de nos différents pays européens. C'est très intéressant. Ils ont beaucoup aimé le film, même si je pense que c'est très, très politique de dire que le film était génial, que c'est super ce que je fais, etc. Mais je pense que dans le lot, il y avait des personnes qui le pensaient profondément. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que du coup, ça leur a donné envie de continuer à organiser des projections tous les ans à la période du 20 mars, qui est la Journée mondiale du bonheur. Et donc tous les 20 mars, au sein de la Commission européenne, il y a une projection du film. Donc voilà les avancées, j'ai envie de dire, un peu ministérielles et institutionnelles, mais je trouve que c'est de chouettes avancées.
Mais c'est important parce que vous avez planté des graines justement sur un terrain qui a le pouvoir, entre guillemets, de les faire germer efficacement pour une
Oui.
société nouvelle. Et de toute façon, on y va, hein, vers cette nouvelle humanité parce qu'il y aura un avant et un après ces événements. Et je suis certaine que L'école en fera partie. On le voit là déjà, ils sont tous en train de se faire des cours à distance et je déplorais parce que j'ai 3 enfants avec 10 ans d'écart et je vois que la scolarité de mon dernier est exactement identique que celle qui a de celui de mon premier qui a déjà 33 ans et avec les sacs à dos trop lourds et qui accentuent les scolioses alors qu'on a tous les outils en main maintenant pour les alléger et pour leur simplifier un petit peu ce travail. Donc là, ils ont été obligés quelque part de tester un outil différent d'enseignement. Voilà. Et donc
Oui.
votre...
Alors oui,
Pardon.
il y a une chose que je veux dire qui est quand même assez importante. Donc il y a le festival pour l'école de la vie et il y a un deuxième événement qu'on organise qui s'appelle le congrès innovation en éducation qui a lieu aussi tous les ans à Montpellier, c'est fin février début mars. Cette année la particularité c'est ce qu'on va le faire aussi à Paris, ce sera le 24 et le 25 octobre. Pour les gens qui sont intéressés, vous regardez ces congrès innovation en éducation. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le festival et dans le congrès, 50% de la population qui vient, ce sont des enseignants. Donc, ce qui veut dire qu'à Montpellier, il y a plus de 7 000 enseignants qui viennent de la France entière. Et au congrès, donc à Montpellier, nous, on a une salle qui est restreinte à 600 personnes. Il y a plus de 300 enseignants aussi qui viennent. Ces enseignants sont pour la plupart des enseignants qui essayent justement de trouver des techniques et des outils qu'on pourrait amener au sein de l'éducation nationale. Et notre ambition, nous, justement, à travers ces deux événements, c'est de marier, en fait, l'éducation nationale avec tous ces outils qu'on a autour de nous et qui existent depuis très longtemps pour certains. Et donc, c'est rassurant de se dire qu'il y a peut-être 50% des enseignants, donc si on prend vraiment à l'échelle globale, 50% des enseignants qui sont totalement pour essayer d'intégrer tous ces outils qu'on trouve à l'extérieur. Et il y a 50% des enseignants qui, pour le moment, sont pas encore prêts, en fait, à entendre tout ça, parce qu'ils ont été conditionnés d'une certaine façon. Donc, il faut pas leur en vouloir. Il faut un peu de temps, en fait, pour le temps que les graines, en fait, germent. Mais tous ces enseignants qui font déjà, en fait, le travail, eh ben, forcément, ils sont en train de semer des graines autour de leurs propres collègues. Et donc, je pense que si on se revoit d'ici 15 ans, les choses auront vraiment avancé de manière très vite au sein du système.
C'est certain, et là on est dans la théorie du centième singe, et
Oui.
forcément ça basculera à un moment ou à un autre. Et vous pensiez que ça allait donner sur tout ça quand vous aviez commencé votre projet, Julien?
Non, absolument pas. C'est ce qui est marrant. Alors moi, je fais partie des chefs d'entreprise qui sont intuitifs. Donc, ce qui veut dire que tout ce que je fais depuis 17 ans, quand j'ai créé mon entreprise, se fait de manière intuitive. Donc, quand je sens quelque chose, quand je sens que c'est le moment, alors c'est assez difficile de mettre des mots sur l'intuition, mais c'est quelque chose qu'on ressent. Voilà. Et donc, non, parce que par exemple, si je prends l'exemple du festival, à l'origine, c'était un pique-nique. Donc, j'avais jamais imaginé un jour me lancer dans la création d'un festival. Moi, j'avais regroupé, alors c'était un gros pique-nique, j'avais regroupé quand même 600 personnes. Pourquoi j'ai regroupé 600 personnes? C'est parce que, à l'époque, donc il faut remonter 5 ans en arrière, j'ai écrit un article sur mon projet d'ouvrir une école nouvelle, que j'ai appelée l'école de la vie. Et donc, dans cet article, j'exprime en fait ma vision en fait de ce que pourrait être une école assez différente de ce qu'on retrouve actuellement. Et quand j'ai publié cet article, en l'espace de 3 mois, j'ai reçu plus de 600 emails de personnes qui voulaient participer à la création de cette école. Et donc, moi, je ne pouvais pas répondre à tout le monde, c'était impossible. J'avais un flux continu de mails en fait qui arrivait. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, c'est génial. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes en fait qui pensaient de la même façon que moi. Donc, je me suis dit, bah, comme j'ai une certaine facilité, ça fait partie de mes excellences de regrouper des gens et de fédérer des gens autour de moi. Je me suis dit, je vais organiser un pique-nique et je vais demander à chacun de venir avec de quoi manger, avec une nappe, et puis on va essayer d'avancer dans cette création d'école. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à communiquer sur ce pique-nique, il y a des gens qui nous ont demandé de donner des conférences, de venir avec une table et des chaises pour avoir des produits à proposer autour de l'éducation. Donc nous, on a trouvé ça plutôt sympa dans l'idée. Quand je dis nous, c'était avec une stagiaire à l'époque. Et donc, on a passé une magnifique journée. Et à l'issue de cette journée, on s'est dit, mais c'est trop dommage en fait de rester là-dessus parce que c'était génial. En fait, c'était des échanges humains, tout ce qui s'est passé, c'était magnifique. Et donc, on s'est dit, bon, bah tiens, on va essayer d'organiser ça sur Montpellier, de trouver un lieu qui pourrait accueillir un peu plus de monde. Et puis voilà, Inch'Allah, on verra bien ce que ça donne. Et donc, on est tombé sur le château de Flaugergue et sur les propriétaires du château de Flaugergue. Il y a eu un vrai coup de foudre humain en fait entre nous. Et on est passé de 600 personnes à 9 000 personnes l'année d'après. Mais ça, nous, on n'avait pas du tout anticipé. Donc, et c'est au fur et à mesure où on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une grosse demande et que les gens étaient très intéressés par cette idée, qu'on s'est dit, bah, il faut vraiment qu'on mette en lumière et qu'on mette en avant tous ces professionnels qui existent, justement pour que les gens se disent, ah, mais oui, en fait, il y a des solutions autour de moi. Et c'est valable pour tout. Le congrès, c'est à peu près la même histoire. Le film, c'est quoi le bonheur pour vous, si vous l'avez compris? Ben, moi, j'avais jamais imaginé un jour réaliser un film. Moi, je me considère comme un citoyen lambda, et pour moi, le monde du cinéma, c'est des budgets de millions et des millions d'euros. Donc, ça rentre pas dans mon champ de réalité. Je me dis, bon, bah, c'est très bien, il y a de chouettes documentaires à la télé, mais je me dis pas un jour, bah, tiens, moi, je vais réaliser un film, et puis ça, voilà, il y aura 1 million de personnes qui vont voir mon film, et puis je vais aller dans des salles de cinéma. Et donc, par contre, si on m'avait expliqué et qu'on m'avait dit, tiens, Julien, pour réaliser un film, il va falloir que tu passes par toutes les étapes, je pense que je l'aurais jamais fait. Si on m'avait dit, réaliser un festival, ça va te prendre tant de temps, il va se passer tout ça, je pense que je l'aurais jamais fait aussi. Donc, c'est pour ça que je pense que quelque part, c'est vraiment important d'écouter son intuition, parce qu'au final, vous voyez, ça amène sur des chemins qui sont chouettes et qui apportent beaucoup autour de moi et qui sèment beaucoup de graines. Donc, moi, si j'ai une chose à recommander, c'est écouter votre intuition.
C'est tout à fait ça, et vous êtes un bel exemple des personnes qui ne font pas pour être, mais qu'ils sont, qui sont et qui font avec ce qu'ils sont. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais il y en a qui font pour paraître, voilà, et il y en a qui sont justes. Et du coup, les choses s'enclenchent, les portes s'ouvrent, les choses se mettre les unes derrière les autres, les portes s'ouvrent et on ne se rend pas compte de l'envergure que ça prend. C'est pour ça que vous avez gardé cette simplicité, cette proximité, cette humilité. Et moi, comment dire, je suis émerveillée de voir qu'il y a des gens encore qui gardent toutes ces valeurs-là, parce que je déplore que beaucoup prennent le melon, que beaucoup ensuite perdent leur intégrité, parce que ça dénature leur message. Leur message n'a plus aucun sens. Il faut,
Oui,
et
c'est ça.
vous vraiment vous transpirez ce que vous partagez, ce que vous transmettez. Et c'est ça qui est efficace, et c'est ça qui donne envie de vous suivre.
Ah, ben c'est super, merci. Mais sachez que pour vous rassurer, on est des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et je trouve que le lieu, en fait, qui est très rassurant, mais je pense qu'il y a plein de lieux de rencontre, comme nous, on le fait avec le festival ou avec le congrès. C'est justement d'aller dans ces endroits-là, parce qu'on est en contact avec des gens qui partagent nos valeurs, des personnes qui ont des idées en fait communes, et c'est un merveilleux endroit pour créer de la synergie en fait entre nous. Et c'est là où vous pourriez vous rendre compte. Je vous invite à venir, bah, soit au congrès, soit au festival. Vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Et nous, on a plein de commentaires après le festival ou le congrès de nos gens qui nous disent, ça redonne foi en l'humanité. Et
C'est
donc,
ça.
c'est important. Et je pense que si on va sur un moteur de recherche et qu'on tape, je sais pas moi, tout ce qui nous intéresse, un colloque éducation, congrès développement personnel, peu importe, une thématique en fait sur laquelle nous on va vibrer et qu'on se rend dans ces lieux-là, vous allez voir, en fait, ça fait vraiment du bien d'être en contact avec des gens qui sont un peu comme nous, qui pensent comme nous, et surtout qui passent à l'action, parce que dans le lot, il y en a beaucoup qui passent à l'action, mais on n'est pas forcément au courant. Moi, je connais plein de professionnels qui exercent leur activité depuis peut-être 20, 30 ans, qui sont connus, ce que j'appelle dans leur biosphère, c'est-à-dire parfois ils ont des millions de personnes en fait qui les suivent. Sauf que tant que les médias ne s'intéressent pas à ça, on n'est pas au courant. Et
C'est
donc,
ça.
voilà. Et donc, c'est important, chacun à notre niveau, d'être curieux, en fait, d'aller faire des recherches. Maintenant, on a depuis des années des moteurs de recherche. Et donc, il suffit de taper des mots-clés, on va découvrir plein de choses. Sur YouTube aussi, c'est pareil. Il y a plein d'acteurs, plein de professionnels, beaucoup de conférenciers très inspirants. Voilà de l'information utile pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté un peu anxiogène des médias. Là, il faut en profiter. On a plein de choses à notre disposition et qui sont là depuis. Regardez, moi, ça fait 17 ans que je fais mon activité. Il y a des gens qui me découvrent tous les jours, quoi. Et donc, il y a plein d'acteurs qui se mobilisent, comme je pense à Pierre Rabhi. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas Pierre Rabhi. À Mathieu Ricard, à Alexandre Jolien, à Christophe André, à Céline Alvarez pour le côté éducation. Enfin, il y en a plein, plein, plein. Donc, à nous d'être un peu curieux et d'aller chercher l'information. Et si on ne trouve pas l'information, eh ben, on se renseigne, on pose des questions autour de soi.
C'est ça, et Pierre Rabhi a fait des TEDx aussi comme vous et comme moi, mais moi ça reste un souvenir incroyable parce que j'ai été terrorisée. Hein.
Ah oui, mais je comprends, hein. Je comprends, hein. C'est assez intimidant, ouais.
Oui, et d'être limitée. Moi qui ai horreur des barrières, qui ai horreur des choses imposées, d'avoir un temps limité de parole et de concentrer
Ouais.
un message, c'était très compliqué pour moi.
Ouais, c'est clair, c'est pas évident, ouais. Je sais pas vous, mais nous en plus, on n'avait pas de prompteur en fait devant nous, donc on
Non,
n'avait pas le temps en fait, on savait pas en fait combien de temps il nous restait, ouais. Donc, mais c'est une super expérience, hein. Nous on a été très bien entouré, on baignait dans l'amour. L'équipe qui a organisé le TEDx à Narbonne était juste magnifique. Et ça se ressent d'ailleurs quand je monte sur scène parce que le. Alors pour la petite anecdote, donc effectivement j'ai réalisé un TEDx pour ceux qui ne le savaient pas, ça s'appelle l'éducation à la vie. Et donc quand je monte sur scène, la présentatrice en fait donc me présente avant de donner mon talk. Et puis elle emploie des mots en fait qui me touchent. Avant d'arriver sur scène, j'ai déjà les larmes aux yeux. Et donc je la prends dans mes bras et je lui dis, écoute là Sandrine. Franchement, tes vaches, ça va être compliqué, quoi. Et donc, quand j'ai commencé mon talk, j'ai demandé au public, genre 2 minutes, le temps que je reprenne un peu ma respiration, parce que j'avais déjà des larmes, en fait, qui tombaient. Et donc, c'était très fort, ouais. Très, très fort, hein, comme tête, quoi. Et je suis très content que ça a l'air d'inspirer plein de personnes aussi, donc c'est chouette.
Oui, mais on a ce point commun parce qu'il y a eu effectivement aussi un grand moment d'émotion dans mon TEDx où il y avait une telle communion entre le public et son écoute et moi qui partageais que beaucoup ont pleuré et moi j'étais au bord des larmes et il y avait mon cerveau qui observait en disant non, non, va jusqu'au bout, c'est pas le moment de craquer. Donc ça a vraiment été sur un fil très tendu en intensité, émotion exacerbée, ça a été vraiment extraordinaire, oui.
Bravo.
Et alors Julien, il y a d'autres projets en route?
Oui, alors bah, justement, on avait une conférence téléphonique hier avec Laurent Queyrat. Alors, Laurent Queyrat, c'est la personne avec qui j'ai fait les deux films, C'est quoi le bonheur pour vous et L'école de la vie. Et on a envie de faire un troisième film. Donc, on était en train justement de discuter à la manière dont on allait s'y prendre, parce que justement, dans le côté un peu originel, c'est que quand vous vous lancez de manière intuitive dans des projets, ben, vous ne maîtrisez pas forcément la logistique. Et donc, vous ne savez pas trop par où commencer et ce qu'il faut faire. Et donc, pour réaliser les deux films, on s'y est pris un peu à l'envers, visiblement, parce que dans le monde du cinéma, il faut d'abord faire un scénario, et à partir du scénario, on va rencontrer les acteurs, et c'est plus simple après derrière pour monter le film. Et nous, en fait, on a monté les deux films en dérochant. Donc, ça nous a mis beaucoup de temps. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait construire un scénario. Donc ça, on a envie de prendre le temps pour construire ce scénario. Et une fois qu'on aura le scénario qu'on a déterminé, en fait, hier, on va essayer de se rapprocher d'investisseurs privés, de personnes, en fait, qui pourraient nous soutenir dans la réalisation du film. Parce que les deux films, moi, je les ai autofinancés. À part le premier film, C'est quoi le bonheur pour vous? Où il y a eu 133 KissKissBankers qui nous ont aidés, en fait, à lancer le film, c'est-à-dire que, alors c'est pareil, je maîtrisais pas le budget en fait d'un film, donc moi à l'époque j'ai demandé 5 000 euros pour m'acheter une caméra et pour m'aider à voyager, et je me suis pas rendu compte du budget après par la suite que ça allait me demander, mais c'est grâce à eux en fait que j'ai pu me lancer, et donc là bah, maintenant on a bien identifié vraiment la somme que pourrait représenter la réalisation d'un film si on veut vraiment bien faire les choses. Donc on aura besoin de soutien financier. Donc voilà, il faut qu'on monte ce projet convenablement et après bon, on va essayer de le présenter à pas mal de personnes. Ça, c'est le gros projet pour les 3-4 prochaines années. Et puis bah, il y a le congrès innovation en éducation là qui approche quand même. Mais c'est une super nouvelle en fait pour nous. On est très contents parce que c'est très challengeant. Là, on va être dans une salle qui va accueillir 1100 personnes. Donc le double du congrès qu'on fait ici à Montpellier. Et puis il va avoir 26 stands, donc c'est un gros challenge. C'est dans l'espace Charenton, pour ceux qui connaissent à Paris. Et donc là, bah, on est en train de travailler dessus. Donc bah, pour le moment, on peut pas visiter la salle comme on l'a fait déjà une fois. Donc on travaille tout l'aspect plutôt communication et on prépare tout ce qu'il y a à faire en amont. Et puis dès que les choses s'arrangeront, on commencera un peu à communiquer autour du congrès. Ça, c'est les gros projets. Et puis bah, ce qu'il y a en attente, c'est l'écriture de livres. Pour le moment, je procrastine. C'est une belle maison d'édition qui m'a contacté il y a 2 ans pour écrire un livre, mais c'est vrai que j'arrive pas à trouver le temps pour écrire ce livre parce qu'on est très occupé dans nos activités. Et puis aussi, très honnêtement, je procrastine parce que je me sens pas vraiment à l'aise avec l'écriture. En tant que dyslexique et dysorthographique, c'est pas forcément évident, en fait, de se lancer, j'ai l'intuition, hein, dans l'écriture d'un livre. Et puis, il y a une autre maison d'édition qui m'a contacté et qui m'a donné une idée, qui m'a dit, tu sais, en fait, il y a plein d'auteurs qui sont un peu comme toi, qui écrivent des livres. Et ce qu'ils font, c'est que bah, généralement, ils font appel à quelqu'un qui les écoute et qui prend en fait des notes et qui va écrire en fait le livre de ce qu'a dit la personne. Mais moi, je suis pas très à l'aise avec cette idée. J'ai l'impression que c'est pas réellement moi en fait qui va écrire le livre. Donc c'est pareil. Je sais pas encore si j'ai envie de me lancer dans cette direction. Donc ça, c'est voilà, c'est des projets pour le futur.
Eh ben, une vie bien remplie et vraiment au service de l'humanité tout entière. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté de vous exprimer. Et je vous souhaite encore le meilleur avenir, mais de ce que je ressens, vous êtes quelqu'un de comblé et d'heureux et qui sait de ce que c'est que le bonheur. Hein.
Oui, merci beaucoup, Aline. Je vous souhaite plein
Je
de
vous
bonnes choses.
remercie.
À bientôt.
À bientôt, Julia.